Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il y a 10 mois, nous inaugurions ce club des idées avec la question suivante. La présidentielle va-t-elle se jouer sur les valeurs? Première d'une série de questions consacrées à l'année politique, année que personne n'imaginait prendre une telle tournure. Alors ce soir, en cette fin de saison radiophonique, forcément c'est l'heure du bilan. Rien ne s'est passé comme prévu? Eh bien c'est la question que nous allons poser à l'ensemble de nos membres de ce club, puisqu'ils sont là tous les 6. Anastasia Colosimo, Ludivine Bantini, Brice Couturier, Sylvain Kahn, Philippe Manière et Sylvain Bourmeau. Bonsoir à vous tous.
Bonsoir.
Voilà, on est obligé d'ouvrir tous les micros là, d'un seul coup. On va essayer d'éviter les larcènes. Et merci d'avoir accepté de venir pour cette dernière de la saison, pour revenir un petit peu sur cette folle année politique. Mais avant peut-être que de démarrer cette rétrospective, je voudrais quand même qu'on dise un mot de ce qu'a été l'événement aujourd'hui politique, la disparition de Simone Veil. Alors évidemment, il y a énormément de choses qui ont été dites, hein, en particulier sur cette antenne depuis ce matin, mais juste peut-être, alors je ne sais pas si on va faire un tour de table complet, mais est-ce que vous considérez les uns et les autres que c'était vraiment une figure très importante de la vie politique française? Et si oui, pour quelle raison? Est-ce que c'est par son action ou davantage peut-être parce qu'elle l'incarnait dans cette vie politique? Brice Couturier.
Écoutez, que ce soit une Française qui soit la première à avoir présidé le Parlement européen, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était pas la première ministre femme de la Santé. Il y avait déjà une femme, MRP, en 1947, qui avait occupé la même fonction. Mais enfin, c'est quelqu'un qui laisse effectivement un souvenir assez inoubliable pour ceux qui l'ont approché, quoi. Oui, c'est sûr.
Sylvain Kahn. Puisqu'on est sur la question européenne, forcément, ça me fait penser à vous.
Bien sûr. Non, mais c'est marrant. J'ai relu justement le discours, le premier discours de présidente du Parlement européen de Simone Veil, le 17 juillet 1979, 17 juillet ou 17 juin, je me souviens plus. Et à un moment donné, elle dit un truc qui est très très actuel. Elle dit, bien entendu, l'Europe ne marchera et ne remplira ses promesses, notamment de prospérité, que si on met vraiment le paquet pour réduire les inégalités. Ce qu'on n'a pas fait. Enfin, ce qu'on a fait à un moment donné, mais ce qu'on ne fait pas assez depuis 10 ans.
Sur la question des inégalités, il y a eu aussi forcément sa transition toute trouvée, son combat pour la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes, en tout cas sa lutte pour la cause des femmes. Est-ce que c'est ce que vous retiendriez, par exemple, vous, Anastasia Colosimo? Non, pas parce que vous êtes une femme, d'ailleurs, je précise.
Non, mais bien sûr. Enfin, d'ailleurs, parce que je suis une femme, évidemment, je suis extrêmement sensible à cette question. Et la loi Veil, c'est une loi extrêmement équilibrée et assez formidable et qui a quand même marqué un tournant. J'ajouterais aussi que c'est la disparition d'un grand aimant de la Shoah. Et ça, c'est quand même aussi très important parce que ça veut dire qu'on rentre quand même dans une période où l'histoire devient de la mémoire. Et quand un témoin comme ça s'éteint, on sent quand même aussi un tremblement de ce point de vue-là.
Sylvain Bourmeau.
Oui, je crois que cette dimension de témoin de la Shoah, de rescapé des camps est extrêmement importante. Sa voix va manquer. Elle ne pourra plus être remplacée désormais. Enfin, ce type de voix ne pourra plus être remplacée désormais que par des historiens et par des citoyens qui se seront informés. Mais la situation va donc changer. Une chose sur la loi Veil, sur l'IVG, non pas du tout pour amoindrir le rôle de Simone Veil, qui a été très important et considérable, et il y a quelques justices à ce que son nom soit associé à cette loi. Mais il y a un raccourci, on a tendance en France à considérer que la question de l'IVG a été réglée avec le vote de cette loi en 1975. Or, ça a été un très 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 long combat dont les derniers éléments sont tout récents. La loi de finances 2013 pour le remboursement à 100% de l'IVG, 1992 pour arrêter de le considérer comme une dérogation à un délit, 2001 pour considérer qu'il s'agit d'une véritable liberté publique et d'un droit. Et ça, c'est la gauche qui a pris ces mesures après. Donc je crois qu'il ne faut pas se dire qu'en 1975 tout a été réglé. Et récemment, en 2014, dernière momentanément, on a abandonné la notion de détresse, qui était un peu rhétorique, mais enfin, depuis l'arrêt Lahache du Conseil d'État, mais la notion de détresse dans laquelle les femmes devaient se trouver, sachant que c'était à elles-mêmes de l'apprécier. Voilà. Et puis, il y avait l'entretien préalable. Enfin, il y avait beaucoup de précautions prises dans cette loi à l'époque, qui était une loi, par ailleurs, j'ajoute, expérimentale, même si elle a été confirmée en 1979.
Pour conclure ce premier tour de table avec Ludivine Bantigny et Philippe Manière, est-ce que sa notoriété, qui est quand même restée intacte pendant d'aussi longues années, n'était pas liée au fait aussi que peut-être qu'elle incarnait une forme d'intégrité en politique et de rareté aussi justement dans cette façon d'incarner cette intégrité, cette honnêteté, quoi, d'une femme ou d'homme politique qu'on ne fait plus aujourd'hui?
D'accord, bien sûr, je souscris à tout ce qui a été dit, mais je crois effectivement qu'il y a quelque chose qui est assez mystérieux autour de sa personnalité. Alors, comme d'ailleurs beaucoup de déportés, elle était très réservée, très tenace, très difficile à comprendre. Ses collaborateurs souvent avaient du mal à comprendre exactement sa personnalité. Non pas qu'on avait du mal à la comprendre, parce que Dieu sait qu'elle s'exprimait très bien, mais il y avait chez elle une part de mystère et de densité. C'est certainement lié, évidemment, à son expérience personnelle, on l'a évoqué, mais c'est une personnalité qui était, en fait, vous vous souvenez peut-être, pendant très longtemps, elle était en tête des sondages de popularité. Alors, c'est très trompeur, hein. Vous savez, il y a des gens comme Yannick Noah, etc. Enfin, ça fait même un peu rire, parce que les gens qui sont en tête des sondages de popularité n'arrivent que très rarement au sommet du pouvoir. Mais elle avait quelque chose qui la rendait très populaire, et en même temps, c'était une femme extrêmement réservée. Pour ceux qui ont connu son mari, qui était une personnalité assez connue à Paris, même s'il avait évidemment pas sa surface médiatique. Lui était plein d'empathie, connaissait la terre entière, tapait dans le dos, rigolait. Et elle était, à côté de ça, d'une réserve extraordinaire, effectivement, qu'on ne voit plus. Je souscris à ce que vous disiez. Aujourd'hui, ça fait partie du boulot d'homme politique de manifester, fut-elle artificielle, beaucoup d'empathie, etc., de communiquer. Elle était tout sauf ça. Et en même temps, elle avait une capacité de résistance à la critique et à l'insulte qu'on ne louera jamais assez. Parce que, à l'occasion de cette loi en particulier, elle s'est pris des torrents d'insultes par courrier, dans la rue. Enfin, il faut avoir une capacité de résister que, à mon avis, peu de gens avaient et que probablement encore moins de gens ont aujourd'hui.
Et ça continue après sa mort sur Twitter aujourd'hui. Des choses atroces, immondes ont été publiées.
Ah, mais j'avais pas noté. Ludivine Bantigny.
Oui, c'est ce qui me frappe aussi, c'est la force de résister aussi à l'insulte et à la calomnie. Moi, j'ai un souvenir personnel quand j'étais petite, et c'était 10 ans après le vote de la loi en janvier 1975. Je voyais encore, et c'est une inscription sur un mur qui est resté très longtemps, Veil égale avorteuse, voilà, avec écrit en lettres rouges sang. Donc ça, c'était vraiment très frappant, cette puissance de la violence qu'elle a dû subir. Moi, je suis toujours un peu gênée par la fabrication des icônes par ailleurs, c'est-à-dire qu'évidemment, elle a porté un combat qui était un combat profondément collectif, et il faut dire aussi que la France était très en retard par rapport à un certain nombre de pays. Bon, la Russie soviétique avait légalisé l'avortement dès 1920, mais au-delà, dans les années 30, il y avait un grand nombre de pays en Scandinavie, en Pologne, un certain nombre de pays d'Europe de l'Est qui avaient légalisé l'avortement, et en 1973, la Tunisie qui d'emblée avait rendu l'avortement libre et gratuit, ce qui n'a pas été le cas en France, et Sylvain Bourneau a eu raison de souligner que Ce combat a duré longtemps et n'est toujours pas terminé.
Bon, alors, si vous le voulez bien, on va passer à présent à cette rétrospective que nous vous proposons, qui sera forcément un petit peu plus courte que prévu. On vous a demandé aux uns et aux autres de réfléchir à ce que pourrait être le mot de l'année, de cette année politique, la séquence politique qui vous a paru la séquence la plus remarquable, et puis peut-être le phénomène, l'événement qu'on aurait négligé, en tout cas qui aurait peut-être mérité qu'on en parle davantage. Je vais commencer avec vous, Brice Couturier, puisque je vais rester dans mon ordre pour l'instant, comme ça, vous voyez, ça me permet de m'y retrouver. Je ne sais pas si c'est le mot de l'année pour vous, recomposition, si c'est la séquence politique, l'élimination des frondeurs du PS aux législatives, ou si c'est l'événement, l'assassinat de Sarah Halimi, sur lequel,
oui,
vous souhaitez revenir en priorité. Mais il faut choisir 101, si vous voulez bien.
Attendez, je vais juste dire le mot recomposition. La séquence politique, c'est la disparition des frondeurs.
C'est ce que j'allais dire.
C'est le truc que j'avais choisi, c'est pour ça que je les répète. La disparition des frondeurs. Voilà. Non, c'est pas vous qui l'avez choisi, c'est moi. La disparition des frondeurs à l'Assemblée nationale, alors que ces 40 personnalités ont occupé quasiment les médias pendant la dernière année du quinquennat. Et puis, je voudrais revenir effectivement sur l'assassinat de Sarah Halimi, parce que c'est quelque chose qui est passé effectivement totalement à la frappe à l'époque où ça a eu lieu, c'est-à-dire à la fin du mois d'avril. Cette femme a été torturée, battue à mort par un type qui récitait des extraits du Coran et qui l'avait traité de sale juive à plusieurs reprises, qui est rentré chez elle par le balcon, qui l'a jeté par la fenêtre. Et les médias se sont empressés d'enterrer l'affaire parce que nous étions en période électorale. Et c'est quelque chose de dramatique parce que c'est un crime antisémite, manifestement. Et ce crime antisémite, sa nature a été dissimulée, son existence a été dissimulée. Et il sort seulement maintenant parce qu'effectivement, TF1 a fait un petit reportage deux mois après, pour dire qu'un crime antisémite avait eu lieu dans ce pays. Alors je me demande vraiment
si éventuellement je peux renvoyer à une émission du Grain à Moudre qu'on a faite il y a quelques jours de cela, qu'on avait intitulé « Y a-t-il un déni d'antisémitisme en France ?» avec notamment Michel Wieworka et Alain Jakubowicz.
Voilà. Alors voilà, c'est effectivement pour moi, l'événement négligé. Le moins qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas été négligé. Il a été manifestement enterré parce qu'en période électorale, c'est une chose qu'ils ne doivent pas sortir. Je trouve dramatique qu'en période électorale, on ne doive pas sortir certaines choses. Tout doit être dit, la transparence est totale et cette obscurité qui a été entretenue autour de ce crime contribue à créer un malaise vis-à-vis des médias en France parce qu'on commence à comprendre qu'effectivement certaines choses ne sont pas dites, tout simplement.
Alors je ne suis pas sûr qu'on puisse engager un débat sur cette affaire qui est une affaire judiciaire en cours. L'assassin présumé, puisque tant qu'il n'est pas jugé, il est encore présumé. Enfin, aux dernières nouvelles, en tout cas, était encore en observation.
En psychiatrie. Voilà, en psychiatrie. Il n'a pas été entendu par les juges d'instruction. Cette histoire est invraisemblable.
Voilà. En tout cas, voilà, c'est une affaire judiciaire qui sera intéressante à suivre. Je vais continuer le tour de table. Sylvain Kahn, je ne sais pas si vous, c'est le phénomène négligé comme Brice Couturier, sur lequel vous avez envie de revenir. Je dois dire que c'est un phénomène, un événement
vraiment
qui m'a
négligé.
Un peu intrigué, parce que alors, j'ai découvert, grâce à vous, l'existence de Léo Varadkar. Qui est Léo Varadkar ?
Léo Varadkar est le nouveau, enfin actuel et récent, depuis peu, Premier ministre irlandais de la petite République d'Irlande, qu'on appelle aussi familièrement l'Irlande du Sud parfois, ou l'Air pour les amateurs de foot, parce que l'Air de temps en temps apparaît, notamment dans la Coupe du Monde 1982, elle était dans la poule de l'équipe de France en phase finale en Espagne, donc les amateurs de foot connaissent bien l'Air. Et ben il se trouve que Léo Varadkar est donc le Premier ministre.
Ça devient vraiment pointu là.
Voilà, non mais on est sur l'événement négligé et tout, voilà. Et ce qui est intéressant avec Léo Varadkar, c'est que donc il est Premier ministre issu du Fine Gael, qui est un des deux grands partis irlandais, plutôt le parti de centre droit. C'est pas le plus conservateur, mais disons c'est un parti conservateur bon teint. Et il est, comme son nom éventuellement l'indique, d'origine indienne. Et d'autre part, il est homosexuel. Alors c'est assez marrant d'avoir de manière totalement, on va dire, ouverte et assumée, dans un pays comme l'Irlande, qui, comme vous le savez, est connu non seulement pour sa bière et pour ses joueurs de foot, mais pour sa législation extrêmement restrictive sur l'avortement, dont on parlait tout à l'heure, de voir que de manière assez inattendue, il y a un Premier ministre qui, comme le Premier ministre luxembourgeois d'ailleurs, M. Xavier Bettel, depuis 2013, qui maintenant se pointe au sommet du G8 ou autre, avec son compagnon. Donc la première dame du Luxembourg est un homme marié à un homme. Et donc voilà, ça m'a paru intéressant de voir que, en tous les cas, il y a un certain nombre de pays, y compris des pays qui sont considérés comme plutôt conservateurs ou moins laïcs que nous, ou manifestement sur le plan des mœurs. Bah, disons, il y a des choses qui se passent, il y a des évolutions qui se font assez tranquillement. Voilà, ça m'a paru intéressant parce que c'est un signal faible pour les Français, mais fort à l'échelle de l'Europe.
Est-ce que si cet événement est passé peut-être plus que relativement même d'ailleurs inaperçu, ce qui a peut-être aussi d'ailleurs été le cas d'un certain nombre d'autres scrutins qu'on puisse passer en Europe, est-ce que c'est pas lié aussi au fait qu'on a été totalement absorbé cette année par l'élection présidentielle française? Anastasia Colosimo.
Ah oui, moi je sais pas vous, mais ça m'a vraiment épuisée. Non, vraiment, j'ai trouvé ça épuisant. Et surtout, c'était... moi j'en ai pas vécu non plus des milliers des élections. Mais déjà, c'était extrêmement long, ça durait quand même un an. Et en plus, c'était vraiment... Il y a eu tellement de rebondissements. Et d'ailleurs, je repensais justement, vous parlez de l'émission qu'on a faite, donc c'était il y a un peu moins d'un an, sur est-ce que la campagne a joué sur les valeurs. Et j'ai essayé de me remettre en tête même ce qu'on se disait à ce moment-là et les possibilités qu'il y avait à ce moment-là. Et vraiment, mais rien ne s'est passé comme prévu.
Et d'ailleurs, elle ne s'est pas vraiment jouée sur les valeurs.
Et d'ailleurs, hein, elle ne s'est même pas trop jouée sur les valeurs. Même pas du tout par rapport à ce qu'on disait. Non, mais nous, on parlait de laïcité, de trucs de machin. Il n'y a pas du tout de question là-dessus.
Quand même sur pro-européen, anti-européen, par exemple.
Oui, mais c'est pas trop.
Tardivement, semble-t-il, quand même, non.
C'était le clivage principal.
Philippe Manière.
Non, ça dépend ce qu'on appelle les valeurs. D'abord, il y a quand même une valeur qui n'était pas prévisible, comme elle a été, en tout cas, comme elle est apparue, et qui a quand même beaucoup perturbé l'élection par rapport à ce qu'on pouvait anticiper, c'est la morale publique, c'est-à-dire que l'élimination du candidat Fillon, on peut appeler ça valeur, pas valeur, on peut trouver que je sais pas quoi, c'est un piège ou au contraire c'est une révélation bienvenue, c'est une autre question, mais il était vraiment question de valeur. Peut-on désigner, du point de vue des Républicains, peut-on élire, du point de vue des Français, quelqu'un qui était accusé de choses aussi graves que celles dont on l'a accusé à l'époque.
Oui, en fait, on aurait dû appeler l'émission, est-ce que les élections vont se jouer sur la vertu?
Sur la vertu ou sur les affaires, c'était, voilà. Et bon, et puis ensuite, sur les valeurs, moi, je suis pas convaincu que l'Europe ait été si clivante que ça. Il y a évidemment le clivage plus large qui embrasse, en particulier celui que vous venez d'évoquer, Sylvain, qui est l'ouverture. Voilà. C'était plutôt ouverture contre fermeture qu'Europe contre anti-Europe. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient allés mettre leur bulletin dans l'urne sur le thème je suis pro-européen ou je suis anti-européen. Beaucoup de gens pour qui tout ça est assez conceptuel. En revanche, oui, l'idée générale de voulons-nous plus d'ouverture, encore plus d'ouverture, en tout cas toute l'ouverture qu'on nous a faite, donnée, offerte, proposée et dont on constate les résultats qu'on apprécie ou pas, ou voulons-nous au contraire reculer, ça je crois qu'effectivement ça a été un assez bon clivage. Et de fait, là je donne le point volontiers à Anastasia, on a été collectivement complètement aveugles à l'apparition, à la montée de cette dichotomie en quelque sorte.
Voilà, Philippe Manière qui tient donc un compte pour chacun, hein, et vous nous direz du coup à la fin de l'émission qui gagne. Hein.
Non, pas d'accord du tout, non. On s'aime tous.
Non, mais pour qui voudrait s'amuser durant l'été à écouter dans l'ordre chronologique les podcasts de ce club tels qu'ils ont eu lieu toute l'année, je pense que l'expérience sera probablement assez surréaliste et donnerait.
Faites passer mon tour, hein, bien que j'ai beaucoup apprécié cette émission.
Moi,
enfin,
j'avais
tous ces écoutés pendant
l'été. De Macron depuis longtemps tout de même.
Hein. Ouais, c'est vrai.
Non, mais donnerait à entendre.
Est-ce que vous comprenez le souhait, le pronostic?
Vous vous souvenez? Non, mais au-delà de moi à l'époque.
Au-delà de la question des pronostics, je pense qu'il y a eu tellement en effet de rebondissements. Et je voulais revenir sur la question des valeurs, de la vertu, de la morale. Je ne suis pas sûr que ce soit véritablement ça qui est joué. Juste, ce n'est pas pour à tout prix placer le mot que je voulais proposer, mais ce mot qui en fait sont deux mots, c'est société civile. Mais société civile dans l'acception que le macronisme nous impose désormais, c'est-à-dire société civile comme on parle des civils par opposition aux militaires, on parle désormais de société civile par rapport aux professionnels de la politique. Et je crois que cette élection s'est beaucoup jouée autour de ça. C'est-à-dire que cette expression permet de comprendre ce qui s'est passé dans cette élection à bien des égards. C'est-à-dire que l'affaire Fillon, c'est pas tant, à mon avis, une histoire de morale, parce que si ça n'avait pas été lié à l'exercice de la politique professionnelle d'une certaine façon, il n'y serait pas arrivé cela. C'est-à-dire que si un certain nombre de gens n'ont absolument pas pardonné à Fillon, c'est parce que ce type de comportement qui a été mis à jour a été étroitement associé à une certaine manière de faire de la politique professionnelle qui n'allait plus du tout. Et c'est juste un des épisodes de cette chose beaucoup plus vaste qu'on a pu appeler dégagisme. En tous les cas, il y avait, et ça, franchement...
Dans lequel c'est une forme d'irénisme, parce que franchement, Ferrand et Bayrou ne nous ont pas immédiatement frappés par leur capacité à manifester une vertu alternative aux vices ontologiques des politiques traditionnelles.
Je ne suis pas en train de dire que la question est réglée, loin s'en faut, et je pense qu'on va continuer d'avoir des soubresauts, et la question n'est pas réglée. Mais je pense que s'il y a eu une erreur collective des responsables politiques, et à gauche comme à droite, c'est de ne pas avoir voulu percevoir la profondeur de cette défiance, de cette crise de la représentation politique, comme on le disait. C'est-à-dire, au fond, ces dérives de la professionnalisation de la politique, dont on perçoit les symptômes depuis au moins 15 ans ou 20 ans, et à peu près rien n'a été fait pour encourager un renouvellement du personnel. Donc on est passé d'un extrême à l'autre, on est passé d'un monde politique où les gens cumulaient, avaient des mandats pendant 50 ans, etc., à un monde où les gens sortent d'une pochette surprise et n'ont aucune expérience. On est vraiment passé d'un extrême à l'autre, alors qu'on aurait pu probablement transformer les choses de façon plus... plus lente et peut-être plus solide aussi, ça, l'avenir nous le dira.
Pardon, sur la crise de la représentation politique, très brièvement, là, pour le coup, on l'avait abordé assez en amont. C'était peut-être le hasard, mais je me rappelle qu'à 2 ou 3 émissions, on a évoqué cette crise de la représentation politique. On n'avait pas vu venir cette incarnation-là, mais on l'avait évoqué.
Donc, c'est moi. Le club des idées, 10 points. Ludivine Bontini, est-ce que cette dérive dont vient de nous parler Sylvain Bourmeau, est-ce que c'est aussi ce que vous avez repéré dans la séquence politique remarquable de cette année, en tout cas très remarquée par vous, qui est celle de l'entre-deux-tours que vous souhaitiez aborder dans cette émission, m'avez-vous dit, sous l'angle de l'abstention et des appels contre l'abstention?
Oui, enfin,
en tout cas, est-ce que c'est révélateur de ça?
Moi, il y a deux choses qui me frappent pour aller très très vite dans cette séquence. Ce sont deux dénis. Alors, le premier déni, c'est la légitimité de l'abstention. Et ô combien on nous a traités, parce que je me suis abstenue au deuxième tour, de traîtres, de votants Le Pen, etc. Ce qui est extrêmement grave. Et en fait, c'est quand même négliger ce qu'ont pensé plus de 16 millions de personnes qui soit se sont abstenues, soit ont voté nul, soit ont voté blanc. Il y a eu une propagande quand même absolument folle dans l'entre-deux tours. Et moi, je me souviens d'une émission à laquelle je n'ai pas participé, mais que j'ai écoutée, du club, qui était très frappante dans la mesure où il était dit que si on ne votait pas, alors on fait pas de politique, on s'intéresse pas aux politiques. C'est-à-dire, alors que moi, je reste persuadée que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes parmi ces 16 millions qui se sont refusées à voter, notamment Macron, puisque c'était l'assignation qui nous a été faite, sont très profondément, pour beaucoup, passionnées par la chose politique et la mènent autrement. Et l'autre déni, c'est le déni de la guerre. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, la grande absente de cette, non seulement de cette campagne, mais de manière générale de la vie politique, c'est la guerre, alors que la guerre est menée et là aussi de manière... Bon, bah, voilà,
est-ce que vous, quand vous parlez de la guerre, c'est-à-dire c'est quoi? C'est la guerre contre le terrorisme?
Alors,
c'est la guerre en Irak, en Syrie?
Est-ce que c'est la guerre contre le terrorisme?
C'est la guerre en général?
Voilà, enfin, c'est-à-dire qu'on mène des guerres à géométrie variable, la France mène des guerres à géométrie variable, il faut vraiment s'intéresser, il faut vraiment chercher des informations, par exemple sur ce qui se passe aujourd'hui à Mossoul ou à Raqqa, les munitions utilisées par la coalition occidentale, notamment, je pense, à l'usage du phosphore blanc, dont toutes les organisations humanitaires dénoncent l'extrême gravité pour les populations civiles. Et en fait, on n'en entend pas parler. Ce n'est pas seulement qu'on manquerait d'informations, mais que ces informations ne sont pas diffusées. C'est-à-dire que, et je pense que ça va donc, c'est la question des interventions militaires qui ne sont jamais discutées d'un point de vue médiatique, mais surtout d'un point de vue politique. C'est un domaine qui échappe absolument, par exemple, au Parlement, qui n'est que très rarement consulté et de toute façon qui n'a pas d'avis à donner sur ces questions. Donc c'est vraiment le fait du prince qui renvoie à une forme d'ailleurs de présidentialisation très forte et très personnelle du régime. Mais c'est de manière générale ce que signifie gouverner par la guerre, ce qu'on vient encore d'apprendre avec Emmanuel Macron et qui va à l'encontre de la promesse qu'il avait faite d'en finir avec l'état d'urgence permanent. Et là au contraire, il décide de le faire passer dans la loi ordinaire, dans l'ordinaire de la législation, ce qui est une manière de placer la guerre au cœur du politique tout en la taisant.
Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à cette intervention ou bien est-ce qu'on continue? On passe à la suite. C'est un peu le principe ce soir, évidemment. On ne choisit pas un seul sujet de débat. Donc on va poursuivre sur ce principe. Anastasia Colosimo, vous aussi, c'est un moment de l'entre-deux-tours qui a capté votre attention pour notre série ou pour notre catégorie, la séquence politique remarquable. Mais c'est moins la question de l'abstention que ce fameux débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pour quelle raison?
Déjà, j'ai le souvenir extrêmement précis que dans les 2 années qui ont précédé l'élection présidentielle, enfin plutôt 1 an avant les élections, on disait Marine Le Pen va être à 33% au premier tour. C'était quand même le chiffre qui a été affiché pendant des mois et des mois et des mois. On nous disait qu'elle serait première et qu'elle serait à 33%. Alors bon, il y a eu le retournement, le fait qu'elle est arrivée deuxième, et il y a eu surtout ce moment de débat qui quand même était, je pense, très significatif, parce qu'elle s'est effondrée. Je pense que personne ne croyait vraiment à la possibilité qu'elle gagne la présidentielle. Ensuite, je pense que beaucoup de personnes pensaient qu'elle ferait un bien meilleur score. Et je pense qu'elle a fait, et c'est un fait assez rare, parce que les choses quand même ne se jouent pas sur un débat normalement. Et là, il y a énormément de choses qui se sont jouées sur ce débat, c'est qu'elle s'est véritablement effondrée. Elle a été extrêmement mauvaise. Et elle a été surtout extrêmement mauvaise sur le fond. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, et ce qui est rare quand même à ce niveau-là, c'est qu'elle ne connaissait pas les dossiers. c'est qu'il y avait une forme d'incompétence qui tout d'un coup sautait aux yeux, et alors qui est en plus à double tranchant, c'est-à-dire l'incompétence face à, pour le coup, un hyper technicien, un énarque qui connaît parfaitement les dossiers, qui sort tout juste du ministère de l'économie et donc qui lui les maîtrise parfaitement. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est à la fois donc pour le Front National et pour ce que ça représente, l'effondrement de la personnalité de Marine Le Pen, mais aussi ce qu'on a vu à ce moment-là, à savoir pour le coup, et ça c'était particulièrement frappant, d'un côté Macron, le candidat Macron, encore une fois, énarque, parfaitement au courant de tout, hyper technicien, capable de répondre à toutes les questions en 3 secondes, et de l'autre côté Marine Le Pen qui incarne le peuple, et c'est ce qu'elle dit, enfin qui est censée incarner le peuple, et on voit d'ailleurs que son vote est un vote très populaire, qui est effectivement la personne qui ne maîtrise pas les dossiers. Qui ne maîtrise pas les dossiers, mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement tragique là-dedans, parce que du coup, elle est renvoyée au fait qu'elle ne maîtrise pas, et donc, avec elle, il y a eu, je pense, un sentiment extrêmement mitigé dans l'électorat du Front National, à la fois de se dire, celle qui nous représente ne nous représente pas bien, et en même temps, un autre sentiment qui était de se dire, mais en fait, nous, on s'en fiche de maîtriser les dossiers, pourquoi est-ce qu'on est dans une telle course à la technique, etc., alors que ce qu'on veut, nous, c'est des choses assez simples, et on doit se justifier de manière technocratique tout le temps. Et donc, voilà, c'est une espèce de double emprisonnement, je pense, de cet électorat. Et d'ailleurs, je pense que ça va être très intéressant de voir comment ça va évoluer, tous les transfuges qu'il va y avoir entre le Front National et la droite, beaucoup de gens qui ont été déçus, enfin, voilà.
Philippe Magnard.
Non, moi j'aimerais rebondir sur ce que disait Anastasia à propos du plantage, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, de Marine Le Pen. Je pense qu'on se trompe en imaginant qu'elle croyait jouer une carte gagnante et qu'elle s'est vautrée faute d'avoir la maîtrise. C'est pas ça du tout qui s'est passé. À mon avis, elle a fait la très juste analyse qu'à la fin du premier tour, avec les 21%, et là-dessus, on a raison de le dire, Anastasia le disait à l'instant, je crois, le score du Front National au premier tour a été spécialement faible par rapport à tout ce que tout le monde imaginait depuis si longtemps. C'était pratiquement la moitié de ce qu'on annonçait il y a un an. Hein. Il y a un an, on disait entre 30 et 40. Elle a fait 21. Donc c'est vraiment ridicule. Donc quand vous faites 21 au premier tour.
Un nombre de voix, là, quand même sacrément progressé.
Non, non, mais c'est une autre question, mais si vous voulez vous qualifier, c'est pas le nombre de voix qui compte, c'est le pourcentage. Donc, 21% au premier tour, c'est pathétique, et donc elle n'avait aucune chance de gagner. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, entre 0 et epsilon, je choisis epsilon, et donc je vais faire quelque chose de complètement alternatif, d'incroyablement culotté, parce que la probabilité que ça marche est extrêmement faible, mais c'est toujours plus que 0, je vais faire du Trump. Autrement dit, n'oubliez pas ce qui s'est passé aux États-Unis. Trump, on a tous pensé pendant des mois qu'il était tellement ridicule, indécent, obscène, indéfendable, et évidemment, il allait se planter. Et c'est le contraire qui s'est passé. Il n'a d'ailleurs pas gagné, malgré le fait qu'il soit indécent, obscène, etc., mais parce qu'il était indécent, obscène, parce que le peuple s'est dit, voilà, enfin quelqu'un qui ne s'enquiquine pas avec les formes.
Mais parce que aussi, les États-Unis, ce n'est pas la France.
Exactement, hein. j'y viens, Anastasia. Et donc, ce qu'elle s'est dit, c'est, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais tout mettre sur la table, je vais avoir un comportement absolument attentatoire aux usages, totalement irrespectueux, et peut-être que ça forcera la décision, parce que j'emporterai avec moi tous les gens qui sont amers et qui veulent en finir avec les élites. Ça marche aux États-Unis, puisque l'élection de Trump s'est produite exactement sur ce mode-là. Ça ne marche pas en France. Ce dont on peut évidemment se réjouir, ça donne aussi à penser, me semble-t-il, sur le degré de démocratie des Américains et des Français respectivement. C'est-à-dire, je pense qu'on peut dire aussi que les Américains sont dans un sens plus démocrates, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à porter un crétin au pouvoir. Non, mais dans un sens, pardonnez-moi, c'est à mettre à leur crédit, parce que moi je connais des gens très intelligents qui ont voté Trump à ma grande surprise.
Mais je suis complètement d'accord, voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une
amertume. Mon point, c'est qu'elle l'a fait délibérément, elle s'est plantée parce qu'il n'y avait presque aucune chance que ça marche. Le fait qu'elle se plante, évidemment, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour le pays, mais ça donne à penser aussi, nous avons besoin de quelqu'un qui nous représente bien, on a besoin. C'est encore la vision monarchique, voilà, on y revient, on l'a évoqué souvent dans nos échanges, pardon.
Si vous voulez réagir, alors, Élie-Devine Bartigny et Sylvain Kahn, mais alors brièvement pour qu'on puisse continuer notre petite.
Sauf sur un point, liste. Manière, qui est le point de l'euro. Parce que là, sur l'euro, je pense qu'il y a vraiment eu un grand cafouillage en termes programmatiques pendant débat.
Non, ça, c'est vrai. Même avant, d'ailleurs.
Non, enfin, moi, je suis pas
brièvement aussi.
En fait, je suis pas d'accord avec l'analyse qui a été faite de ce débat. Parce que, bon, même sur l'euro, en fait, elle a parlé de l'écu qui existait. Bon, enfin, mais moi, ce qui m'a frappé, c'était la manière dont le regard médiatique général s'est retourné sur ce débat. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter le débat journalistique qui a suivi. Le débat entre Le Pen et Macron. Et en fait, tous les journalistes étaient consternés par le débat dans son ensemble et pas seulement par la prestation de Marine Le Pen.
Non, si vous permettez,
j'ai regardé, alors là pour une fois, j'ai regardé BFM TV, il y avait des représentants et représentantes de Maria, du Point d'ailleurs, Brice, et tout le monde était consterné par le débat. Il y a une autre chose, et par le niveau
très,
aussi très faible.
Très vite, s'il vous plaît, Ludivine, parce que sinon après vous allez être très frustrés, vous n'aurez pas eu le temps d'aborder nos autres sujets.
Il y a un autre déni, c'est quand même que Le Pen a fait plus de 10 millions de voix au deuxième tour. Et je sais pas, on a l'impression que c'est désormais complètement négligé. Je pense que c'est une situation qui est très grave et qu'on peut pas balayer d'un revers de main en disant qu'au fond, ça a été catastrophique, ce résultat. C'est un résultat qui est impressionnant et qui est grave.
Sylvain Bourmeau.
Non, juste pour compléter ce que disait Philippe Manière, parce qu'à mon avis, ça ne fonctionne que si on ajoute une dimension qui est le fait qu'une partie de la posture traditionnelle du Front National et de Marine Le Pen, cette posture anti-système lui a été volée à la fois par Jean-Luc Mélenchon et par Emmanuel Macron. Et donc, elle avait en face d'elle quelqu'un qui était dans le système, mais contre le système. Et donc, au fond, elle n'a pas tellement changé de discours par rapport à d'habitude, mais simplement, elle n'était plus la dépositaire exclusive de ce tous pourri ou de ce abat le système.
Tout est relatif, vient de nous dire à Philippe Manière. C'est peut-être justement une forme de stigmate de ce mot qu'on a entendu énormément tous ces derniers mois et encore davantage ces dernières semaines, qui est celui de recomposition, qui est votre mot de l'année, Brice.
Et oui, celui que j'avais choisi. Écoutez, les politologues emploient dorénavant une expression qui s'appelle le réalignement électoral. Et là, on est exactement dans un réalignement électoral. C'est-à-dire que vous avez une élection qui marque une rupture, réellement, par rapport à la classe politique, tout simplement, telle qu'elle existait. Les trois quarts des députés ont quitté le Parlement. Ceux qui sont arrivés sont des nouveaux venus d'un peu partout, de la société civile, comme on dit, en tous les cas des politiciens non professionnels. Les rares professionnels arrivent tous à des postes extraordinaires, président du Parlement pour l'un, président de commission pour l'autre, alors que c'est des gens qui étaient formal élus et avec des expériences finalement assez faibles. Enfin, on est dans un moment, enfin, je ne vais pas reprendre ce que je dis depuis des mois et des mois à cette antenne, on est comme 1958, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un balayage, un dégagement extraordinaire d'une classe politique pour une raison simple, c'est qu'elle avait échoué tout simplement à résoudre les problèmes qui préoccupent les Français, celui du chômage en particulier. Et effectivement, là, il y a quelque chose qui s'est produit, il y a un renouvellement terrible. Et ce qui me frappe, c'est que par contre, les institutions, elles, n'ont pas bougé. On nous disait, c'est la faute des institutions, elles ne sont pas assez démocratiques, il faut redonner du sens au Parlement, il faut passer d'une cinquième à une sixième réplique. Non, pas du tout. Les institutions, Macron les a respectées, non seulement il les respecte parfaitement, mais il en aggrave la tendance présidentielle. Parce qu'effectivement, il a besoin de cette autorité pour résoudre les problèmes du pays. Les institutions n'ont pas été touchées, mais c'est le système partisan qui a été totalement bouleversé, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a un nombre de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale tel qu'on n'en a jamais vu. Il y a une extrême gauche, il y a une gauche, il y a une gauche pro-Macron, il y a un énorme bloc macronien au centre, il y a une droite pro-macronienne, il y a une droite anti-macronienne, il y a une extrême droite. Donc le problème, c'est que si vous voulez, on va se retrouver face à une absence réelle d'une opposition structurée. On a des oppositions, des micro-opposition dans certains cas, une opposition un peu plus forte à droite, mais enfin en réalité, tout ça ne fait pas une opposition, il y en a des tas. Donc je pense que la recomposition, elle n'est pas achevée, si vous voulez. Je pense que même avec la disposition des partis telle qu'elle se déroule aujourd'hui au Parlement, on n'a pas été jusqu'au bout. Il reste encore deux, trois trucs, comme par exemple faire éclater le Front National.
Vous avez parlé donc de recomposition, mais aussi de renouvellement. Philippe Manière, est-ce que pour vous, Édouard Philippe, incarne notamment ce renouvellement? Si je vous pose cette question, c'est parce que pour vous, la séquence politique de l'année, c'est la nomination d'Édouard Philippe. J'avoue que j'ai été un petit peu surpris par votre choix.
Mais non, mais parce que je peux tout à fait le défendre. Je trouve que l'effondrement du PS, les difficultés de la gauche pour résister à Macron, on les voyait venir. Macron, son fonds de commerce, c'était d'abord à gauche, même si il cherche à travers cet équilibre. Franchement, il y a seulement deux mois, qui d'entre nous aurait pensé qu'il allait si facilement rentrer à droite aussi et tout démonter? Franchement, c'est spectaculaire. Non, franchement,
mais
je
l'ai dit ici.
Non, mais bien sûr, à part Brice Couturier qui a tout dit et qui avait prévu l'assassinat de César.
Je
ne parle pas seulement de l'étonnement des gens qui savent, qui est presque impossible à obtenir, en particulier celui de Brice, mais dans l'ensemble, nous tous, collectivement, le pays, je pense, nous autres pauvres mortels, qui ne sommes ni Jupiter, ni Hermès, ni Brice, nous sommes
pas éclater les républicains et tu ne croyais pas le maire.
J'en suis sûr, Brice. Personne ne pouvait imaginer, je crois en tout cas, très peu de gens imaginaient que la droite allait aller jusqu'à cet état d'explosion qu'incarne absolument la nomination d'Édouard Philippe à Matignon. Quand on a commencé à en parler, ça paraissait même un peu bizarre et surréaliste. Et alors c'est très intéressant, on n'a pas le temps de creuser, mais regardez la barbe de hipster que Édouard Philippe porte depuis quelques années seulement, qui correspond vraiment au look En Marche. Comment ?
C'est pas vraiment une barbe.
Pas exactement
hipster.
Non, hipster. C'est beaucoup plus long, la barbe de hipster.
Non, mais voilà. Alors, c'était l'hipster il y a 5 ans.
La barbe
enfin,
de détente.
La barbe de. Voilà, de
un peu comme Sylvain Bourmeau, par exemple.
La barbe que portent maintenant les hommes lancés et qui n'était pas vraiment la barbe classique de l'homme de droite de cet âge. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très intéressant dans la facilité avec laquelle il a décroché le soutien d'une partie de la droite. Alors, quand on y réfléchit, après, c'est toujours facile à expliquer, c'est jamais aussi surprenant qu'on pense. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'Édouard Philippe, qui est l'un des 3 députés seulement à s'être abstenu lors du vote pour le mariage pour tous, avec Nathalie Kosciusko-Morizet et ici, mémoire bonne, Bruno Le Maire, était un peu prédéterminé. C'est-à-dire qu'il avait, il n'était pas très à droite de la droite. Cependant, c'est un homme de droite. Et donc, voilà, la nomination de cet homme de droite me semble parachever l'entreprise de démolition systématique qu'a réalisée jusqu'au bout. Et vraiment, moi, j'aurais pas été capable de pronostiquer tout ça, Emmanuel Macron. C'est pour ça, il n'y a que Brice qui s'appelle.
Cela dit, puisque vous étiez notamment sur la question de l'image, qui est.
Je pense que c'est un bon choix, par ailleurs. Philippe est un garçon.
Et qui est évidemment importante. Justement,
Sylvain
Bourmeau, vous avez retenu comme un événement politique remarquable. Alors, vous remontez à début 2016. C'était au moment où Brice Couturier commençait à nous annoncer un petit peu ce qui allait se passer l'année suivante, la fabrique du candidat Macron. Est-ce que pour vous, c'est une fabrique qui est avant tout quoi ? Une fabrique d'une image, justement, d'un possible candidat ?
Ah non, une fabrique d'un candidat. Mais moi, j'ai voulu parler de la préhistoire, en quelque sorte, parce que, précisément, on n'a pas vu à ce moment-là, et même Brice ne voyait rien à cette époque-là. Donc, ça rend la période particulièrement intéressante.
C'était vraiment des temps barbares.
Personne ne comprenait, n'a rien compris sur le moment. Ce qui m'a personnellement ouvert les yeux, c'était à la mi-avril 2016, un article dans le très bon journal Le Temps, un article de Richard Verly, correspondant à Paris, qui expliquait qu'un certain nombre de gens autour de François Hollande avaient décidé que François Hollande ne pourrait pas être candidat à sa succession, et donc qui avait décidé de fabriquer un nouveau candidat. Et ces gens, évidemment, il y avait au premier chef Jean-Pierre Jouyé, mais un certain nombre d'autres conseillers. Et donc, je trouve fascinant...
Il faut aller dans la presse suisse pour savoir ce qui se passe en France, au passage.
Non, mais au passage, oui, parce que
c'est vrai, hein.
Il a des sources, des informations. Je pense qu'un certain nombre de journalistes français devaient les avoir, mais n'ont pas voulu les publier. Voilà. C'est ça la différence. Et en fait, moi, j'aimerais bien, et j'espère qu'un jour... On en saura davantage sur ce moment de fabrication.
Fabrication, c'est un mot vraiment... C'est un mot complotiste, excuse-moi.
Ah non,
fabrication, on n'a pas fabriqué un candidat.
Mais non, mais pas du tout. C'est la rencontre, le moment de la rencontre entre un petit groupe de gens proches du président de la République qui se disent notre champion, le président de la République, ne pourra pas se représenter, donc qui va pouvoir le remplacer? Bon, ça n'a rien d'un complot, c'est une question qui se pose pour ces gens. Et la rencontre entre ce petit groupe de gens et puis l'ambition d'Emmanuel Macron. Je pense qu'Emmanuel Macron, son ambition, on ne l'a pas inventée pour lui. C'est quelqu'un qui avait une envie, un désir de pouvoir, qui s'est engagé. Donc il y a eu une rencontre là. Mais j'espère qu'un jour, on saura ce qui s'est passé, on saura la manière dont François Hollande a été tenu à l'écart de ça. Et j'aimerais savoir quand on a commencé à lui expliquer, qui a commencé à lui expliquer, comment ça s'est passé. Je trouve que c'est une des choses les plus mystérieuses qui soit aujourd'hui.
C'est peut-être lui d'ailleurs qui un jour va le raconter, on ne sait jamais.
Oui, sans doute, mais c'est surtout que je pense que ce qui s'est passé surtout, c'est que la créature a échappé au créateur. C'est-à-dire que je pense que, évidemment, au départ, on n'arrive pas là par hasard.
C'est vrai,
il y avait
sûr.
Une idée, mais je pense que la force, et pour le coup, et c'est redoutable, la force de Macron, c'est que il a réussi très rapidement, en fait, à prendre le dessus. Et d'ailleurs, on le voit très bien aujourd'hui, puisque en fait, il a le dessus sur à peu près tout son entourage, et il est en fait très libre et très fort de ce point de vue-là.
Nous aurions pu parler d'illibéralisme, de celles et ceux, de social-libéralisme, du couple légal-moral concernant les affaires. Je reprends exactement les termes que vous aviez envoyés par mail. On aurait pu parler de quoi d'autre, de tout un tas d'autres choses. Les discordes entre les candidats sur la politique extérieure. Les votes blancs et nuls aux législatives. Beaucoup de choses, évidemment, je le savais qu'on n'aurait pas assez de temps pour toutes les aborder. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier tous les six, Anastasia Colosimo, Ludivine Montigny, Sylvain Kahn, Philippe Manière, Sylvain Bourmeau et Brice Couturier pour cette belle année passée à vos côtés chaque vendredi ou presque, puisqu'il y a aussi, il y a eu aussi quelques lundis d'après élection, et de nous avoir éclairé, d'essayer de mettre un peu de fond dans une campagne qui parfois en a sans doute un petit peu manqué. Vous avez sans doute donné quelques idées pour la programmation du grain à moudre d'été, car quand le grain à moudre d'hiver, appelons-le comme ça, s'arrête, eh bien l'été prend la relève. Au mois d'août, ce sera Mélanie Chalandon qui sera aux commandes du grain à moudre d'été. Et au mois de juillet, Raphaël Bourgois. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous.
Avec déjà quelques petites idées, quelques petites pistes pour
la
semaine prochaine.
Il faudra m'envoyer la liste des mots quand même, parce que ça va me donner des idées ce mois de juillet qui s'annonce quand même très très chargé en actualité. Donc je pense que j'aurai pas beaucoup à piocher dedans. Non, donc dès lundi, avec le congrès de Versailles, on parlera encore d'Emmanuel Macron, use-t-il ou abuse-t-il de la 5e République. Puis on parlera de la loi travail, on parlera de libre-échange, de la fin de l'État islamique ou non en Irak, et enfin du cybercrime. Est-ce que le cybercrime paie? Alors je ne donne pas mes titres parce que je suis bien moins fort que vous en titres. Et voilà,
je vous donne un petit coup de main si vous voulez. C'est à partir de 18h15, c'est ça l'été?
Alors 18h20 jusqu'au 14 juillet, d'accord. Et 18h15 à partir du 14 juillet, c'est une petite subtilité.
Alors voilà, on vous retrouve lundi prochain, Raphaël Bourgois.
Et vous dès l'année prochaine.
Voilà, et moi dès l'année prochaine. Et je voudrais en profiter pour remercier évidemment toute l'équipe du Grain, et en particulier trois personnes ce soir. Louise Fuseau, notre stagiaire, voilà, qui nous a accompagnés depuis 5 mois. Et puis Cyril Baer et Céline Leclerc, voilà, avec qui je travaille, l'un depuis 2 ans, l'autre depuis 6 ans. Voilà, je voudrais leur adresser toute mon affection et tout le bonheur qui a été le mien de travailler avec eux. Voilà, et je leur souhaite bon vent, comme on dit dans ces occasions-là. Voilà, dans un instant, vous retrouverez Ping Pong, Mathilde Serrel et Martin Kénéen, et leurs invités, bien entendu.
Nous y sommes, mais on voudrait vous dire aussi tout le plaisir que ça a été de fusionner avec vous hier, Hervé Gardette, pour ce Pink Poudre en direct de la Librairie de Paris.
Oui, je savais à quel point c'était partagé.
Voilà, c'est à réécouter en podcast, bien sûr. Bonsoir, comme invité, on a, par exemple, autour de la table, Roche Dizem, pour un nouveau film qui s'appelle Les Hommes du Feu, de Pierre Jolivet, qui sortira mercredi prochain. Il s'agit de pompiers et de sociétés.
Il faut donc se méfier du vent, et aux côtés de Roche Dizem ce soir, l'ex-footballeur devenu philanthrope et auteur de bande dessinée, Lilian Thuram, qui vient à notre rencontre à l'occasion de la publication du tome 2 de sa série Notre Histoire chez Delcourt.
Voilà, ben on vous retrouve comme à chaque fois après le rappel des titres à Mathilde et Martin. Il est 19h01.